Fauchée de Saint-Maurice à la Brunante. Le feu des Roussis, partie 1, le petit Cyprien. Il est bon de vous dire que le petit Cyprien Roussi n'avait pas fait ses Pâques depuis 6 ans et 11 mois. La 7e année approchait tout doucement et, comme c'était l'époque où les gens placés en aussi triste cas se transformaient en loups-garous, les commères du village de la bonne Sainte-Anne du Nord s'en donnaient à cœur joie sur le compte du malheureux.
« Un rira bien qui rira le dernier !» disait dévotement la veuve de Mers. Quand il sera obligé de courir les clos, et cela pendant des nuits entières, sans pouvoir se reposer, il aura le temps de songer aux remords que laissent toujours les fêtes et les impiétés. Courir les clos, c'est trop sûr pour lui,
reprenait non moins pieusement mademoiselle Angélique Dessin, vieille fille de 48 ans.
« Mais peut-on savoir au moins ce qu'il deviendra, ce pauvre Cyprien? J'ai ouï dire qu'un loup-garou pouvait être ours, chat, chien, cheval, bœuf, crapaud. Ça dépend, paraît-il, de l'esprit malin qui lui est passé par le corps. Étonné, si vous me promettiez de ne pas souffler mot, je dirais bien quelque chose, moi. »
« Ah, jour de Dieu, bavarder, jamais de la vie !» affirma hardiment la mère Gariépi, qui tricotait dans son coin. « C'est bon, pour la femme du marchand, qui est riche et n'a que cela à faire. Parlez, parlez toujours, mademoiselle Angélique. »«
Eh bien, puisque vous le voulez, je vous avouerai que j'ai dans mon poulailler une petite poule noire qui me donne bien du fil à retordre. Elle ne se juche jamais avec les autres, caquette rarement et ne pondrait pas pour tout le blé que bonhomme Pierriche récolte le dimanche. Parfois, il me prend des envies de la saigner. Il me semble qu'il doit y avoir quelque chose de louche là-dessous.
Mais saignez-la, Angélique, saignez-la,
interrompit la veuve de Mers.
Qui sait? En la piquant du bout d'un couteau, peut-être délivrerez-vous un pauvre loup-garou. Car pour finir leur temps de peine, il faut de toute nécessité qu'un chrétien leur tire une goutte de sang. Ce sont les anciens qui le disent.
Ah bien, ça n'est pas moi qui saignerai ces prières aussi. J'aurais trop peur de toucher à sa peau d'athée.
C'était la petite Victorine qui hasardait cette timide observation. Et peut-être se préparait-elle à en dire plus long sur le compte de Cyprien lorsqu'on entendit une voix avinée qui venait du chemin du roi. Elle chantait.
« On dit que je suis fier, ivrogne et paresseux. Du vin dans ma bouteille, j'en ai ben quand je veux. »
Tiens, voilà le gueux qui passe.
Murmura modestement la charitable Angélique en marmottant quelques douces paroles entre ses dents. La voix était toute proche et avec cette solution de continuité qui caractérise les idées d'un chevalier de la bouteille, une nouvelle chanson faisait vibrer les vitres du réjouissant repère où ces dames comméraient à loisir.
« Elle n'est pas plus belle que toi, mais elle est plus savante. » Elle fait neiger, elle fait grêler, elle fait le vent qui vente. Sur la feuille ronde, sur la feuille ronde. Elle fait neiger, elle fait grêler, elle fait le vent qui vente. Elle fait reluire le soleil à minuit dans ma chambre. Sur la feuille ronde, sur la feuille ronde.
Ah, sainte bénite, j'en ai les cheveux à pic sur la tête, gazouilla à la sourdine la mère Gariepi. L'avez-vous entendu comme moi, vous autres? Il fait reluire le soleil à minuit dans sa chambre. Oui, c'est bien triste, toutes ces choses, continua la suave Angélique. Et pourtant, ce soleil qui à minuit reluit dans sa chambre n'est qu'un faible commencement de la fin. Le pauvre garçon en souffrira bien d'autres.
Ces dames se reprirent à jaser de plus belle, car la voix s'était perdue dans le lointain. Et pourtant, de prime abord, celui qui en était le propriétaire ne méritait certainement pas si triste renommée. Cyprien Roussy n'était pas né à la bonne Sainte-Anne du Nord, mais comme tout jeune encore, il avait perdu père et mère, le hasard l'avait confié aux soins d'un vieil oncle, garçon et esprit tant soit peu voltairien, qui avait laissé Cyprien pousser à sa guise, sans jamais s'en occuper autrement que pour le gourmander sévèrement lorsqu'il n'arrivait pas à l'heure du repas. Pour le reste, liberté absolue. Aussi, à l'âge de 20 ans, Cyprien avait réussi à grouper autour de lui la plus joyeuse bande de lurons qui ait jamais existé, à partir du château Richer en remontant jusque dans les fonds de Saint-Féréol. Il était, par droit de conquête, le roi de tous ces noceurs, roi par la verve, par l'adresse et par la force corporelle, car personne mieux que le petit Cyprien ne savait raconter une blague, adresser un coup de poing, décapuchonner avec une balle un goulot de bouteille et vider en une heure les pintes et les chopines de rhum. Sur lui, le mal de cheveux n'avait guère plus de prise que les bostonnais sur les habitants de la bonne Sainte-Anne du Nord. La nature n'avait rien épargné pour façonner au petit Cyprien une bonne et rude charpente. Front haut et dégagé, œil fier et ferme sous le regard d'autrui, bouche agaçante et pleine de promesses, tête solidement assise sur un cou fortement planté entre deux larges épaules, poitrine musculeuse et bombée, tout était taillé chez Cyprien Roussy pour le pousser à une vieillesse de 100 ans. Lui-même, quand on lui parlait de rhumatisme, de maladies mystérieuses, de mort subite et des peines de l'enfer, il se frappait l'estomac de son poing velu et disait en ricanant « Est-ce qu'on craint le froid, la maladie, la vieillesse, le diable avec un pareil coffre? Là-dessus, le chaud et le froid passent sans laisser de traces. Laissez vos psalmodies, mes doux amis, et gémissez sur le compte d'autrui, car en me voyant naître, la bonne Sainte-Anne a dit à son mari « Tiens, je vois poindre là-bas un gaillard qui, pendant la vie, s'économisera bien des vœux. » Alors, tout le monde se signait. On le recommandait aux prières des fidèles et les bonnes gens de l'endroit, égrenait le chapelet pour lui et écoutait dévotement les vêpres, pendant qu'en joyeuse compagnie, le petit Cyprien jurait haut et buvait sec dans les bois qui foisonnent autour de la grande rivière. Là, pelotonné à l'ombre, tout le village passait devant ses yeux sans pouvoir trouver grâce. Les vieilles avaient la langue trop affilée, ce qui était un peu vrai. Les jeunes voulaient enjôler les garçons par des charmes d'importation anglaise, par des vertus tout aussi artificielles. Le marchand faisait passer un tributaire du Saint-Laurent dans son rhum et dans son genièvre. Le curé buvait sec, mais en cachette, ce qui constituait un pénible cas d'ivrognerie. La bonne Sainte-Anne ne se faisait pas assez prier pour opérer ses miracles. Les béquilles suspendues à la voûte et aux parois de l'église étaient toutes de la même longueur, ce qui prouvait en faveur de la monotonie du talent de l'ouvrier chargé de la commande. Les ex-voto étaient faits dans le but d'encourager la colonisation, au détriment de la navigation pour laquelle le petit Cyprien se sentait un faible décidé. Et la bande joyeuse de rire aux éclats, de trinquer à chaque saillie et de faire chorus autour de l'athée. Il n'y avait pas de scandale cousu au fil blanc qu'il n'inventa, lorsqu'un beau dimanche ce fut au tour de tous ces lurons d'être scandalisés. Pendant la grand-messe, le petit Cyprien aussi, qu'on n'avait pas vu depuis 3 semaines, s'était pieusement approché du balustre et, à la vue de tout le village ébahi, y avait reçu des mains de son curé la Sainte Communion. Le feu des Roussis, partie 2. Marie la Couturière. Le secret de tout ceci était bien simple pourtant. Si, le dimanche qui suivit la fête au bois, les pharaons du château Richer et de Saint-Féréol, tout en pomponnant leurs chevaux et faisant leur tour de voiture, s'étaient adonnés à passer devant la porte de la modeste maison du père Couture, sise au pied d'une de ces jolies collines qui traversent le village de Sainte-Anne, ils auraient aperçu le cabrouet de Cyprien, dételé et remisé sous le hangar. Ce jour-là, bâillant aux corneilles, fatigué de courir la prétentaine et de fainéantiser, Cyprien avait appris l'arrivée de Marie la Couturière. Marie la Couturière était une grande brune, ni belle ni laide, qui, avec l'œuvre de ses 10 doigts, gagnait un fort joli salaire à la ville, où elle s'était fait une réputation de modiste. Elle était venue prendre quelques jours de repos chez l'oncle Couture, et comme le petit Cyprien s'était levé ce matin-là, avec l'idée fixe d'aller lui conter Fleurette, il avait attelé, après le dîner, et s'en était venu bon train, superbement endimanché, pipe vierge sous la dent, mettre le feu dessus et faire un brin de jasette. Le père Couture était un vieux rusé, qui, lui aussi, avait fait son temps de jeunesse. Aussi vit-il d'un très mauvais œil le vert galant, arrêter sa jument devant la porte, la faire coquettement se cabrer, puis s'élancer lestement sur les marches du perron, tout en faisant claquer savamment son fouet. Mais sa nièce, Marie, lui avait montré une si jolie rangée de dents, elle l'avait appelée « mon oncle ». Avec une intonation si particulière, qu'il se prit à chasser cette mauvaise humeur comme on chasse une mauvaise pensée, et sans savoir ni pourquoi ni comment, il s'en était allé tranquille mettre le cheval à l'écurie et remiser la voiture sous le hangar. Pendant l'accomplissement de cette bonne action, le petit Cyprien, le toupet relevé en aile de pigeon, le coin du mouchoir, artistement tourmenté hors de la poche, avait fait son entrée triomphale, tenant d'une main son fouet et de l'autre sa pipe neuve. Marie était bonne fille, au fond. Cet air d'importance n'amena pas le plus petit sourire sur le bout de ses lèvres roses. Elle lui tendit gaiement la main, tout en disant « Eh bien, comment se porte-t-on par chez vous, Cyprien ?»« Mais qu'a un et qu'a un, mademoiselle Marie, l'oncle Roussy est un peu malade, quant à moi. Ceci est du fer !» ajouta-t-il en se passant familièrement la main sur la poitrine. « Savez-vous que vous êtes heureux d'avoir bonne santé comme cela, Cyprien ? Au moins, c'est une consolation pour vous qui mettez sur terre tout votre bonheur, car pour celui de l'autre côté, on m'assure que vous n'y croyez guère. »«
Ah, pour cela, on ne vous a pas trompé. Et je dis avec le proverbe, un, tu tiens, vaut mieux que deux, tu tiendras. » »«
C'est une erreur, Cyprien. On ne tient pas toujours, mais en revanche, vient le jour où l'on est irrévocablement tenu. Alors, il n'est plus temps de regretter.
Voyons, là, puisque nous causons de ces choses, dites-moi, cœur dans la main, quel plaisir trouvez-vous à être détesté par toute une paroisse et de vous moquer continuellement de tout ce que votre mère n'a fait que vénérer pendant sa vie? Quel plaisir, mais Marie, il faut bien tuer le temps. Et je conviens franchement, puisque vous l'exigez, que je m'amuserais beaucoup mieux à Québec. Ça, c'est une ville où l'on peut faire tout ce qu'on veut sans être remarqué. Mais ici, pas moyen de dire un mot sans que, de suite, il prenne les proportions d'un sacrilège.
Vous ne me connaissez pas d'hier, Mademoiselle Marie, et vous savez bien qu'en fin de compte, je suis un bon garçon. Mais je n'aime pas être agacé. Dès que l'on m'agace, je... Eh bien, je crois... Sac à papier, je ris.
Vous riez, pauvre Cyprien, mais savez-vous ce que vous faites? Vous riez des choses saintes. Dieu, qui de toute éternité sait ce que vous fûtes et ce que vous deviendrez, se prend alors à considérer cette boue qu'il a tirée du néant et qui cherche maintenant à remonter vers lui pour l'éclabousser. Et alors, cette bouche qui profère, en riant, le blasphème, il la voit à travers les ans, tordue, violette, disjointe et rongée par la vermine du cimetière. Vous lisez, Mademoiselle Marie, vous lisez trop. Vos lectures vous montent à la tête, et quelquefois, ça finit par porter malchance. Ne craignez rien pour moi, Cyprien, et vos facéties ne m'empêcheront pas d'aller jusqu'au bout, car je veux vous sermonner tout à mon aise. Vous le méritez, vous m'écouterez, je le veux. » Elle fit une moue tout enfantine, et Cyprien, étonné de se retrouver si solidement empoigné par ses griffes roses, se prit à se balancer sur sa chaise, tout en se taisant courageusement. Marie reprit doucement. « Vous disiez, tout à l'heure, Cyprien, que vous regrettiez de ne pouvoir pas demeurer à la ville. On y mène si joyeuse vie, pensiez-vous. Eh bien, voulez-vous savoir ce que c'est que la vie à Québec? Écoutez-moi bien, alors. »
« Ça y est, belle Marie. » J'emprunte les longues oreilles du bedeau et j'écoute votre aimable instruction.
Aimable? Non. Franche? Oui. Regardez-moi, bien en face, Cyprien, je ne suis qu'une pauvre fille qui a fait un bout de couvent, mais qui, restée orpheline à mi-chemin, a su apprendre et comprendre bien des choses que la misère enseigne mieux que les Ursulines. Livrée seule à moi-même, j'ai cru que le travail était la sauvegarde de tout. Et je ne me suis pas trompé, j'ai travaillé, et en travaillant, j'ai vu et j'ai retenu ce que le paresseux ne voit pas et le riche ne sent pas. J'ai vu de pauvres compagnes d'atelier, faibles et confiantes, tomber et se relever, les mains pleines de cet argent que le travail honnête ne peut réunir que par parcelles. J'ai coudoyé des hommes respectables et réputés très honorables qui, la bonhomie sur le visage, le sourire de la vertu sur les lèvres, s'en allait porter à l'orgie et au vice le salaire que la famille réclamait piteusement. J'ai vu monter chez moi des femmes couvertes de soie et de dentelles fines pendant que leurs enfants, au bras d'une servante, croupissaient dans l'ignorance. J'ai vu déchirer à belles dents des réputations par de saint marguillier, qui pieusement et sans remords ronflait dans le banc d'œuvre. J'ai vu bien des beaux esprits se paralyser au contact de leurs verres pleins. J'ai vu des jeunes gens bien élevés employer leur intelligence à faire franchir le seuil de la débauche à de pauvres enfants qui, jusque-là, n'avaient eu d'autre chagrin que celui qu'apporte la rareté du pain quotidien. J'ai vu, mais à quoi sert de vous parler de toutes ces choses, Cyprien? Vous les savez mieux que moi. Car si Québec regorge de ses horreurs, Sainte-Anne renferme aussi quelqu'un qui peut marcher sur leur brisée et ce que les autres font en plein soleil et sous des dehors de grands seigneurs, vous le faites ici, sans façon et à la débrailler. Ah, Cyprien, ce n'est pas pour vous faire de la peine que je dis ces choses-là, mais il est pénible de vous voir, vous,
fils d'habitant, boire votre champ au lieu de le cultiver? Dans quel siècle vivons-nous donc, grand Dieu? Et où l'intelligence humaine s'en va-t-elle? Cyprien ne riait plus, la tête baissée, les joues vivement colorées, il réfléchissait silencieusement. Mauvaise cervelle, mais cœur excellent. Il ne trouvait plus rien à dire et, comme l'oncle Couture venait de rentrer après avoir fait le train des animaux et le tour de ses bâtiments, il dit tout simplement à voix basse « Merci, merci du serment, il profitera. Et maintenant, il faut que je m'en aille. Sans rancune, Marie, au revoir. » En route, il fut rêveur et fit, presque sans s'en apercevoir, tout le bout de chemin qui le séparait de la maison roussie. Dès ce jour, il y eut un changement notable dans sa conduite. Ses amis ne pouvaient plus mettre la main dessus. Il était toujours absent, et même les mauvaises langues commençaient à chuchoter, car le cabrouet de Cyprien s'arrêtait souvent à la porte du père Couture. Marie était légèrement malade depuis quelques jours. Le travail avait un tant soit peu ébranlé cette frêle constitution, et sous prétexte d'aller chercher de ses nouvelles, le petit Cyprien passait ses après-midi à la maison de la couturière. Or, un beau matin, comme Marie était à prendre une tisane et que Cyprien, tout distrait, tabourinait de ses doigts sur la vitre de la fenêtre, il se prit à dire, tout à coup, « J'ai envie de me marier, Marie. » Un jour, le diable se fit ermite, murmura doucement la malade, en remettant son bol de tisane sur la petite table placée auprès de sa berceuse. « Je ne suis plus le diable, pauvre Marie. Depuis un mois, me voilà rangé. Déjà, ma réputation de viveur s'en va par lambeaux. Et maintenant, j'ai besoin d'une bonne fille pour me raffermir dans la voie droite. Vous savez, l'habitude de chanceler ne se perd pas facilement. » Ajouta-t-il en riant. Puis, redevenant sérieux, il dit « Voulez-vous être ma femme, Marie? Vous allez vite en besogne, monsieur Cyprien, » reprit la malade. « Et vous profitez de l'intérêt que je vous porte pour vous moquer de moi. Vous ne vous corrigerez donc jamais de votre esprit gouailleur. Dieu sait si je dis la pure vérité, Marie. « Dieu ! Mais tout le village sait aussi que vous avez dit 100 fois ne pas y croire. »« Ah, mon ami, c'était alors de folles paroles que je passerai toute ma vie à expier. J'y crois maintenant. Plus que cela, j'y ai toujours cru. »« Et qui me le dit, maître Cyprien, avec des viveurs comme vous autres, nous, pauvres filles, il est toujours bon de prendre ses précautions. »« Mademoiselle Marie, Cyprien Roussy vient de se confesser. Il doit communier demain, » répondit-il lentement. Marie se tut. Une larme erra dans son œil noir. Puis, faisant effort pour rendre la conversation plus gaie, elle reprit « Bien, Cyprien, très bien. Après avoir été le scandale, vous serez l'expiation. Tout cela est raisonnable. » Mais je ne comprends pas comment monsieur le curé a pu m'imposer à vous comme pénitence. Oh, Marie, c'est à votre tour maintenant de railler. Mais écoutez-moi, il vous est si facile d'être bonne que je serai bon. Tenez, si vous dites oui, et si vous voulez être Madame Roussy, eh bien, je ne suis pas riche, mais je vous ferai un beau cadeau de noces. Et ce cadeau de noces, que sera-t-il? Je vous jure que de ma vie, jamais goutte de liqueur forte n'effleurera mes lèvres. » Marie resta silencieuse un instant, puis, étendant sa main vers Cyprien, « Puisque vous dites la vérité, je serai franche avec vous. Je vous aime, Cyprien. » Et voilà comment il se fit que 2 mois après avoir communié, Le petit Cyprien, toujours au grand ébahissement du village, était marié à Marie, la couturière. Partie 3. Le feu des Roussis. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce jour de bonheur et d'union. 15 ans de paix, tels que Cyprien n'avait jamais osé les souhaiter lui-même à ses heures de rêverie les plus égoïstes. La petite famille s'était augmentée d'un gros garçon bien fait et bien portant, et comme Cyprien s'était vite apprivoisé à l'idée du travail, une modeste aisance l'avait bientôt récompensé de son labeur assidu. C'était à Passepébiac qu'il habitait maintenant. Il lui avait été difficile de demeurer plus longtemps en ce village de la bonne Sainte-Anne du Nord, qui ne lui rappelait que le souvenir de ses fredaines passées. Là, il avait trouvé de l'emploi auprès de la maison Robin, qui avait su apprécier cet homme sobre, actif, rangé, et petit à petit les économies n'avaient cessé de se grouper autour de lui, car Marie aidait aussi de son côté, et tout marchait à merveille. Chaque matin, les écus s'en allaient au fond du grand coffre qui renfermait le linge blanc, et là, il s'amoncelait dans le silence en attendant le mois de septembre suivant, époque où le fils Jeannot pourrait monter, commencer ses études au petit séminaire de Québec. Cyprien s'était bien mis en tête de lui faire faire son cours classique. Et Jeannot avait débuté en écoutant attentivement sa mère lui inculquer ses principes sages, cet amour de la religion et cette triste expérience du monde qu'il avait su jadis faire passer dans l'âme du petit Cyprien. Le bonheur terrestre semblait fait pour cette humble maison. La paix de l'âme y régnait en souveraine. Lorsqu'un soir, une catastrophe soudaine y fit entrer les larmes et les sanglots. C'était en hiver, au mois de janvier. Marie était seule à préparer le souper auprès du poêle rougi. Cyprien et Jean s'en étaient allés causer d'affaires à la maison occupée par les employés de M. Robin. Que se passa-t-il pendant cette triste absence? Personne ne put le dire. Seulement, lorsque Cyprien et son fils furent arrivés sur le seuil de leur demeure, ils entendirent des gémissements plaintifs. Ils se précipitèrent dans la cuisine et le pied du malheureux père heurta le corps de sa pauvre femme, qui gisait sur le plancher au milieu d'une mare d'eau bouillante. À ses côtés, une bouilloire entr'ouverte n'indiquait que trop comment ce malheur navrant était arrivé. Pendant 2 heures, Marie eut le triste courage de vivre ainsi. Elle offrait à Dieu ses indicibles souffrances, en échange de cette absolution qu'elle savait ne pouvoir obtenir sur terre, car on était en 1801, et la côte était desservie par un pieux missionnaire qui restait à une trop grande distance de Passepébiac. Agenouillés auprès de ce calvaire de douleur, Cyprien et Jean pleuraient à chaudes larmes. Déjà, ce calme poignant qui se glisse sous les couvertures du moribond était venu présager l'agonie, et Marie, les yeux demi-fermés, semblaient reposer, lorsque, tout à coup, elle les ouvrit démesurément grands. Cyprien vit qu'elle baissait, et il se leva pour se pencher sur elle, mais la main de la pauvre endolorie s'agita faiblement sur le bord du lit, et il l'entendit murmurer « Ta promesse, Cyprien, de ne plus boire !»« Je m'en souviens toujours, je la tiendrai. « Sois tranquille, dors, mon enfant. » Alors Marie s'endormit. Le silence de l'éternité avait envahi la maisonnette du pauvre Cyprien, ne laissant derrière lui que des larmes et de l'abandon. Le coup fut rude à supporter. Aussi Cyprien prit-il du temps à s'en remettre. Ce départ avait tout dérangé, et comme bien d'autres projets, celui de maître Jean au séminaire fut abandonné. En ces temps de douleur, son père avait vieilli de 10 longues années. Cette vieillesse prématurée affaiblissait ses forces ainsi que son courage. Et Jean lui-même avait demandé à rester pour venir en aide au travail paternel. Les jours passaient devant eux, mornes et sans joie, lorsqu'un matin, Daniel Gendron fit sa bruyante entrée dans la maison des délaissés. Gendron arrivait en ligne droite de Saint-Féréol. Là, il avait entendu dire que par en bas, la pêche était bonne. Si la pauvreté contrariait Maître Daniel, en revanche, l'esprit d'ordre ne le taquinait pas trop, et, repoussé de toutes les fermes du comté de Montmorency, il s'en était venu solliciter un engagement à la maison Robin. Elle avait besoin de bras, il fut accepté, et sa première visite était pour Cyprien, avec qui il avait bu plus d'un joyeux coup, lors des interminables flâneries de jadis sur les bords de la grande rivière de Sainte-Anne. Cyprien n'aimait pas trop à revoir ceux qui avaient eu connaissance de sa vie de jeunesse. Aussi lui fit-il un accueil assez froid. Gendron ne put s'empêcher de le remarquer.
« Comme tu as l'air toute chose aujourd'hui, maître Cyprien, est-ce que ça ne te ferait pas plaisir de me revoir? »
« Oui, oui, Daniel, ça me ferait plaisir en tout autre moment, mais aujourd'hui... « C'est jour de pêche et comme tu es novice, j'aime à te dire qu'on ne prépare pas en une minute tout ce qu'il faut emporter pour aller au large. »«
Tiens, je serais curieux de t'accompagner pour voir ça. Tu me donneras ta première leçon. »«
Je veux bien, mais si tu veux suivre un bon conseil, tu ferais mieux de profiter de ton dernier jour de liberté car on travaille dur par ici. »«
Bah, ça me fait plaisir d'aller jeter une ligne et puis nous parlerons du bon temps. »
« Ah, pour cela, non !» dit énergiquement Cyprien. « Je n'aime pas qu'on me le rappelle. »«
Pourquoi donc, mon cher ? Nous buvions sec et nous chantions fort, alors. Est-ce que cela n'était pas le vrai plaisir, Cyprien ?»«
Daniel, ce qui est mort, laissons ça là. »«
Comme tu voudras, monsieur, mais tout de même, tu es devenu fièrement ennuyeux. » Et toi qui riais de si bon cœur de notre curé, tu as rattrapé le temps perdu et te voilà maintenant plus dévot que le pape. »
Sans répondre, Cyprien se dirigea vers la grève, suivi de Jean et de Daniel. Là, ils poussèrent la berge à l'eau et se mirent à ramer vers le large. Le temps était légèrement couvert, un petit vent soufflait doucement et tout promettait une bonne pêche. Daniel chantait une chanson de rameur pendant que Cyprien et Jean fendaient silencieusement la lame. Cela dura ainsi jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés sur les fonds. Alors ils se mirent courageusement à pêcher. Pendant deux bonnes heures, ils y allèrent de tout cœur et la berge s'emplissait de morues lorsque Daniel interrompit tout à coup son travail en disant
« Ne trouves-tu pas, Cyprien, que la brise renforcée serait plus prudent de rentrer, qu'en dis-tu ?»
Cyprien sembla sortir d'une longue rêverie. Du regard, il fit le tour de l'horizon, puis, d'une voix brève, il commanda à Jean « Lève la haussière !» Et, se tournant vers Daniel, « Déferle la voile, je prends la barre. Déferle vite, nous n'avons pas de temps à perdre. Daniel !» Une minute après, la berge était coquettement penchée sur la vague et volait à tire d'aile vers la pointe du banc de Passepébiac. On était alors vers les derniers jours de mai. Il fait encore froid à cette époque, surtout par une grosse brise, et rien de surprenant si les mains s'engourdissaient facilement. Daniel ne le savait bien que trop, car il se soufflait dans les doigts depuis quelque temps, lorsque tout à coup, portant la main à sa poche, il en retira une bouteille de rhum. Il la tendit triomphalement à Cyprien.
« Prends un coup, mon homme, ça réchauffe, et ce n'est pas l'occasion qui manque par cette température-ci, diable !» Qui a eu l'idée d'appeler cette baie la baie des chaleurs?
Garde pour toi, Daniel, je n'en prends pas, merci. Veille toujours à l'écoute. Et il secoua tristement sa pipe par-dessus bord de l'air d'un homme qui ne se sent pas le cœur à l'aise. Cependant, la brise montait grand train. De minute en minute, le temps se chagrinait, les nuages gris étaient devenus noirs comme de l'encre. Et pour cette nuit-là, la mer ne présageait rien de bon. Tout à coup, la berge prêta le flanc, et une vague plus grosse que les autres, arrivant en ce moment, couvrit Cyprien des pieds à la tête. Roussy tint bon tout de même. Sa main n'avait pas lâché la barre. Ses habits ruisselaient, le froid augmentait, et Daniel, qui avait à demi esquivé ce coup de mer, s'en consolait en reprenant un second coup.
« Là, vraiment, Cyprien, tu n'en prendrais pas ? Ça fait furieusement du bien pourtant lorsqu'on est mouillé. »
Cyprien eut un frisson. Il ne se sentait plus la pression de ses doigts sur la barre. L'onglet l'avait saisi, et détachant une main du gouvernail, il la tendit enfin vers Daniel et but à longs traits. Il avait menti à sa pauvre morte. Qu'advint-il d'eux depuis, nul ne le sait. Le lendemain matin, on trouva à l'entrée du banc une berge jetée au plein, la quille en l'air, et à ses côtés, maître Daniel Gendron qui avait perdu connaissance. Depuis ce sinistre, on aperçoit à la veille du mauvais temps une flamme bleuâtre courir sur la baie. Suivant les rapports de ceux qui l'ont examinée, dit l'abbé Ferland, elle s'élève parfois au sein de la mer à mi-distance entre Caraquet et Passepébiac, tantôt petite comme un flambeau, tantôt grosse et étendue comme un vaste incendie. Elle s'avance, elle recule, elle s'élève. Quand le voyageur croit être arrivé au lieu où il la voyait, elle disparaît tout à coup, puis elle se montre de nouveau lorsqu'il est éloigné. Les pêcheurs affirment que ces feux marquent l'endroit où périt dans un gros temps une berge conduite par quelque hardi marin du nom de Roussy. Cette lumière, selon l'interprétation populaire, avertirait les passants de prier pour les pauvres noyés. Ceci est la pure vérité. Aussi, voyageurs et pêcheurs, lorsque vous verrez osciller un point lumineux au fond de la baie des Chaleurs, agenouillez-vous et dites un De Profundis pour les deux défunts, car vous aurez vu le feu des Roussis.